Je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord je tiens à vous remercier particulièrement de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant, le modèle allemand de l'administration numérique. Deux précisions pour débuter. Tout d'abord, la nature même du regard que je suis capable modestement d'apporter sur l'e-administration en Allemagne. Ça n'est pas le modèle, je tiens à l'indiquer, d'un e-administré allemand. Je suis un juriste, je suis germanophone, germanophile, mais je ne suis pas un e-administré allemand. Je pensais déjà qu'il était important d'insister sur cette précision. Le second point, c'est que le sujet même qui m'a été confié comporte une légère difficulté. Le modèle allemand de l'administration numérique. Il faut faire attention aux mots. Il n'est pas ici question en réalité d'un véritable modèle. On parle souvent de modèle allemand et les médias adorent utiliser ce terme. On n'a pas pu y échapper ces dernières semaines, ne serait-ce que parce que l'Allemagne serait supposément un modèle de vertu économique. En ce qui concerne l'e-administration, il n'y a pas véritablement, je vais peut-être vous décevoir, de modèle allemand au sens de modèle à suivre, au sens d'exemplarité. Il y a par contre, ça c'est vrai, certaines spécificités allemandes, et ce sont ces spécificités que je vous propose d'aborder. Comme je viens de le dire, il n'y a donc pas de modèle allemand. D'ailleurs, l'e-administration en Allemagne ne s'est pas développée plus facilement que l'e-administration en France. Dans les années 70, les premiers systèmes informatiques qui se sont développés en Allemagne ont d'ailleurs très largement mal fonctionné, comme en France, finalement. À l'époque, chaque entreprise, IBM, Siemens, par exemple, développait ses propres standards, évidemment totalement incompatibles avec ceux des entreprises concurrentes, sinon ce ne serait pas drôle. Les problèmes techniques étaient très nombreux, les problèmes juridiques aussi, comme par exemple lorsque l'autorité de protection des données du Baden-Württemberg s'est rendu compte avec une certaine stupéfaction qu'il n'y avait tout simplement pas de fonction effacée dans un logiciel de traitement des données au sein du Land du Baden-Württemberg. Faisons un saut dans le temps jusqu'au début des années 2000. Les choses se sont-elles arrangées ? Non. Pas vraiment. À cette époque bien proche, de très nombreuses erreurs de jugement, d'appréciation sont encore commises. Par exemple, en pensant que les standards classiques d'envoi d'emails sont incompatibles avec l'administration, que l'administration aurait besoin davantage de sécurité. Alors on a développé le protocole X400, ça a coûté très cher, ça n'a pas forcément bien marché. La signature électronique, de même, développée à très grand renfort de budget, parce qu'on pensait qu'il fallait nécessairement un très haut niveau de protection pour toutes les transmissions de données, ce qui, là encore, n'est pas forcément nécessaire. Et pendant ce temps-là, on laissait des brèches de sécurité béantes ouvertes dans les systèmes d'exploitation, de manière à ce que n'importe quel pirate informatique normalement doué puisse y accéder. Je vais donc vous rassurer, le tâtonnement en la matière n'est pas une spécificité française, loin s'en faut. À partir de 2005, les choses vont s'accélérer. Tout d'abord, les portails vont se multiplier, un peu comme en France. Et puis l'État fédéral va également injecter beaucoup d'argent dans l'e-administration, au travers notamment en 2009 du Konjunkturpaketswai, un plan de relance dans lequel un demi-milliard d'euros va être consacré à l'e-administration. Et désormais, vous l'avez évoqué, la priorité, comme en France, est de mettre en œuvre de manière effective le One Stop Government, au travers d'une plateforme unique d'accès, avec une véritable interactivité et une maîtrise des données par l'e-administré. Voilà donc, au terme de cette brève introduction, des errances passées, des buts largement communs avec d'autres pays européens, voilà, l'Allemagne serait finalement un pays comme les autres. Pas vraiment, quand même. Il existe au moins deux grandes spécificités, à mon sens, qui méritent d'être étudiées. Les premières sont d'ordre sociologique, dirons-nous, managériale peut-être. Les secondes sont d'ordre plus juridique. Et c'est ce que je vous propose d'examiner dans deux parties assez rapides. Tout d'abord, une certaine conception, une certaine vision de l'e-administration. Ce qui frappe lorsque l'on s'intéresse à la doctrine allemande sur l'e-administration, c'est qu'elle définit l'e-government comme une variante du e-business, mais appliquée à la sphère publique. Le point important systématiquement mis en avant, c'est qu'une possibilité technique peut exister, peut d'ailleurs être utile pour l'administration, réduire les coûts, mais si elle n'est pas aussi utile pour l'administrer, ça ne marche pas. Le but est donc de créer le besoin d'e-administration auprès du grand public. C'est une condition essentielle du succès de l'e-administration et cette vision fait trop souvent défaut dans d'autres pays. C'est pourtant un point essentiel. J'ai lu récemment une étude par Pitney Bowes, qui est le géant américain des systèmes de traitement de courrier, et qui a fait une enquête dans différents pays, alors l'Allemagne certes, mais également le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, sur la question de savoir quels sont les canaux de communication que les administrés préfèrent. Eh bien, un des rares outils dans lequel l'e-administration fonctionne le mieux, c'est la déclaration d'impôt. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'en la matière, l'e-administré a de nombreux avantages. C'est plus rapide, il y a un gain de temps, on ne risque pas d'avoir de perte de courrier, on peut connaître tout de suite le montant de son impôt, on a donc des contreparties réelles. Parfois même, on a une petite ristourne. En Allemagne, on a beaucoup réfléchi à cette question de l'acceptation par les administrés et la doctrine a beaucoup écrit sur cette question. Comment rendre les services dématérialisés attractifs ? Comment créer un besoin d'e-administration ? Comment satisfaire au mieux les administrés ? D'ailleurs, une petite parenthèse, en Allemagne, on parle de Kundenzufriedenheit. C'est donc de la satisfaction de clientèle dont il est question. Parce que l'e-administré est finalement un client, comme le client d'une entreprise privée. Une illustration récente est à ce titre extrêmement éclairante. C'est la nouvelle carte d'identité numérique allemande. Cette carte d'identité, je n'en ai pas parce que je suis résident français, sinon je vous l'aurais montré, ressemble à la carte d'identité nationale française, un petit document plastifié, dans lequel figure, et c'est la grande différence, une puce sans contact. Cette puce sans contact comporte deux fonctionnalités très intéressantes. La première est une fonction de signature électronique. Je m'explique. Pour signer en ligne une demande, un document, il suffit de prendre sa carte d'identité, de la poser sur un petit lecteur, d'utiliser une signature électronique qu'on aura au préalable chargée sur cette carte, et vous pouvez ainsi, en ligne, compléter vos demandes administratives, vos demandes d'allocation, remplir une procuration, par exemple. Petite précision, ce n'est pas l'administration qui charge sur la carte d'identité la signature électronique. La carte d'identité offre cette technique, mais ce n'est pas l'administration qui fournit la signature. La signature est fournie par une entreprise privée. De même que le lecteur, d'ailleurs, lui aussi, entre 50 et 150 euros, doit être acheté par l'administré, usager, client. Mais l'État finance, au travers de subventions, l'acquisition de ces signatures électroniques et l'acquisition de ce matériel de lecture. Second outil qui figure dans cette carte d'identité numérique, c'est une fonction d'identification pour des services en ligne. On s'est rendu compte qu'il est parfois fastidieux de remplir, avant d'accéder à un forum, à un chat, un certain nombre d'informations. Nom, prénom, adresse, email, etc. Avec cette carte d'identité numérique, vous pouvez tout simplement la poser sur le lecteur, taper votre PIN et vous serez immédiatement logué. Alors évidemment, si un jour on a besoin de retrouver votre trace parce que des propos diffamants, xénophobes ont été commis, c'est très simple. Il suffira de vous retrouver avec l'empreinte numérique laissée par le biais de votre carte d'identité. Mais vous n'avez pas à donner ces informations à l'administrateur du forum, à l'administrateur du chat. Et ça change beaucoup les choses, ça simplifie les choses et ça rassure l'e-administré client. En fait, cette carte d'identité numérique est intéressante parce que la sphère publique a développé un outil dont la vocation est d'être utile au-delà de la seule sphère publique. Et c'est pour ça que ça marche. C'est d'ailleurs comme ça qu'Internet s'est développé de la sphère publique vers la sphère privée. Et je pense qu'en Allemagne, on a bien conscience de ce point-là. Il faut créer une technologie utile pour qu'elle se diffuse largement. Et on n'a pas peur, on n'a pas honte qu'il y ait également une application purement privée, s'il le faut. Parce que votre carte d'identité numérique, vous pouvez signer certes une demande d'allocation familiale, mais vous pouvez aussi signer un contrat en ligne, si vous le voulez, et d'une certaine manière, par exemple, sécuriser l'achat de vos prochaines vacances. Le second point que je souhaiterais aborder, c'est le contexte juridique très particulier de l'Allemagne. Il y a au moins deux grandes spécificités. Alors la première ne méritera peut-être pas qu'on s'y attarde très longuement, c'est que l'Allemagne est un État fédéral. Or, dans un État fédéral, il y a des spécificités. Ces spécificités sont notamment liée à la manière dont les Länder et le Bund peuvent collaborer. En Allemagne, les choses ont été très compliquées. Il a fallu une réforme constitutionnelle, le 29 juillet 2009, pour intégrer dans la Constitution un article 91C qui permet justement d'expliquer comment les Länder et le Bund peuvent collaborer sur ces questions d'e-administration. Il est notamment précisé que les Länder et le Bund travaillent ensemble à la mise en œuvre et à l'exploitation de systèmes de TIC, qu'ils peuvent fixer ensemble les critères d'interopérabilité, les exigences de sécurité, que les Länder peuvent ensemble exploiter des systèmes informatiques et le Bund, lui, prend en charge la création d'un réseau pour le relier, Bund et les Länder. Reste qu'une fois ces difficultés résolues, il faut toujours aujourd'hui se pencher sur la question des compétences communales et en la matière, il n'y a toujours rien dans la Constitution qui soit spécifique à l'article 28. Le second point sur lequel j'insisterai un tout petit peu plus longuement, si vous le permettez, c'est qu'il y a en Allemagne, et j'aimerais faire le parallèle avec votre intervention de tout à l'heure, une obligation de respecter les droits et libertés fondamentaux encore plus poussée qu'en France. Pourquoi ? Même parce qu'il y a une jurisprudence de la Cour de Karlsruhe qui est une jurisprudence assez restrictive pour le développement de l'e-administration, du moins qui encadre très largement le développement de l'e-administration. Deux décisions, mais il y en a d'autres, deux décisions qui illustrent ce propos. La première, du Bundesverfassungsgericht, donc de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, du 15 décembre 1983, concerne la collecte de données personnelles. Il a été imposé dès 1983 que le législateur devait fixer de strictes limites et de strictes conditions de proportionnalité à ces collectes de données personnelles. Qu'on ne pouvait pas collecter des données personnelles à des fins non déterminées ou non encore déterminables. Et qu'on ne pouvait pas non plus transmettre des données entre administrations si cette transmission n'était pas justifiée, en France on ajouterait par un intérêt public suffisant, et autorisée strictement par le législateur. Des conditions très strictes, donc vous le voyez. La seconde jurisprudence date du 27 février 2008. Elle a été largement commentée en Allemagne et même un peu en France, c'est suffisamment rare pour être signalé. Dans cette jurisprudence du 27 février 2008, la Cour de Karlsruhe a posé un principe, à contre-pied total d'ailleurs de ce qui se faisait dans d'autres pays à la même époque, un principe de confidentialité et d'intégrité des systèmes informatiques, fondé sur le droit à l'autodétermination informationnelle. C'est très intéressant et en pratique, ça restreint également assez largement les utilisations des TIC par l'administration. Ces jurisprudences ne manquent pas de susciter des interrogations. Elles freinent le développement de l'administration et aussi, et surtout peut-être, elles freineront dans les années à venir celle du One-Stop Government. En outre, et de manière beaucoup plus concrète, cela a indirectement conduit à l'abandon de certaines politiques récentes, telles Elena. Elena, c'est un prénom charmant, c'est aussi le nom d'un fichier beaucoup moins charmant, instauré par la loi du 28 mars 2009. Ce fichier avait pour but de collecter les rémunérations versées par les employeurs à leurs employés. Le but, faire économiser environ un demi-milliard d'euros par an aux employeurs, ça fait de la paperasse en moins, et à l'administration, parce que du coup, évidemment, les données numériques sont plus faciles à exploiter. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas simplement que des informations liées aux rémunérations, il y avait aussi d'autres informations plus sensibles, dirons-nous, comme les participations à des grèves, les absences injustifiées, les avertissements avant congé du contrat de travail. Et bien entendu, tout cela avait également un autre but, c'est de permettre le recoupement par l'administration avec d'autres fichiers, par exemple le fichier de versement des allocations chômage, des allocations logement, des allocations familiales, etc. Les données ont commencé à être collectées en 2010 et l'utilisation effective du système devait être opérante à partir de janvier 2012. Et puis au fur et à mesure qu'on a collecté les données, la grogne est montée. Et finalement, le 3 décembre 2011, le législateur a décidé de jeter l'éponge et a mis fin au système Elena. Le 13 février 2012, très récemment donc, toutes les données ont été effacées sous le contrôle du BFDI, qui est l'équivalent de la CNIL allemande. En deux mots, c'est ce qu'on appelle un échec. Actuellement, l'administration allemande travaille sur un autre système qui serait un peu plus protecteur des droits, ça ne ferait pas de mal, et la doctrine, quant à elle, en même temps, réfléchit un nouveau concept qui serait un droit au rejet total de l'e-administration. C'est intéressant parce que c'est complètement à contre-courant de ce qu'on entend très souvent, et dans la doctrine allemande, on voit de plus en plus se développer cette notion de droit qui pourrait être un droit fondamental de rejet à la dématérialisation. On le voit, la mise en place d'une e-administration efficace n'est pas une chose facile, vraiment pas, et les dirigeants allemands n'ont, de ce point de vue-là, pas trouvé la solution miracle. Mais ce qui retient l'attention, c'est leur volonté de mettre en place des solutions réellement novatrices, facilitant la vie des administrés au-delà de leur seule relation avec l'administration. La carte d'identité numérique le révèle assez clairement. Il y a là un pragmatisme certain, un pragmatisme qui, à mes yeux, est un pragmatisme louable. En somme, pour qu'une solution d'e-administration fonctionne, il faut peut-être d'abord la penser pour les usagers consommateurs et non pas pour l'administration. Je vous remercie.